Il y a 15 ans, le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie, État commun des Tchèques et des Slovaques, scindait en deux. Aujourd'hui, la Tchéquie et la Slovaquie sont deux États souverains qui coexistent et collaborent dans le cadre de l'Union européenne. Quelles ont été les causes de la partition? Était-elle inévitable? Qu'a-t-elle apporté de négatif et de positif? Quels sont, 15 ans après, les rapports entre Tchèques et Slovaques? Pour répondre à ces questions, j'ai invité au studio de Radio Prague notre ancien collègue Omar Mounir, auteur du livre « La partition de la Tchécoslovaquie » qui a paru en français en 1999 aux éditions Quorum et paraîtra bientôt en tchèque. Tu commences ton livre par une citation, tu cites Ernst Denis, le célèbre historien qui a assisté à la naissance de la Tchécoslovaquie et a écrit plusieurs livres sur l'histoire de Bohême. La Bohême nous a appris qu'il n'est pas nécessaire de s'entretuer parce que les hommes ne traduisent pas tous, par les mêmes symboles, leurs angoisses communes et leurs désirs semblables. Essayons d'expliquer le rapport entre cette citation et ton livre.
Justement, cette citation, elle tombe à pic sur la problématique tchéco-slovaque, en ce sens que cette partition, que ce soit dans son processus ou dans la consommation de la partition à proprement parler, s'est passée de la manière la plus civilisée qui soit. Et il n'existe pas de cas, aujourd'hui dans l'histoire contemporaine, où une partition s'est faite aussi paisiblement. J'utilise l'expression que voici, qu'on trouve dans le livre, c'est que la partition de la Tchécoslovaquie a été faite sans que les Tchèques et les Slovaques aient à casser ne serait-ce qu'un verre. Je dirais que c'est une leçon à l'intention de l'Europe, une leçon de sagesse et d'un degré élevé de civilisation et de culture en Tchécoslovaquie. Je ne le soulignerai jamais assez. Si le cas de la partition de la Tchécoslovaquie s'est yougoslavisé, c'est l'expression à adapter et à adopter étant donné les circonstances, eh bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le sort de l'Union européenne eût été autre, l'OTAN n'aurait pas été l'OTAN que nous connaissons aujourd'hui et la sécurité en Europe n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui, ni l'Union européenne. Et donc c'est un service immense que les Tchèques et les Slovaques ont rendu à tout le monde en Europe, à l'insu de tout le monde. Personne ne s'est passé inaperçu parce qu'on ne remarque que les mauvaises choses qui laissent beaucoup de dégâts humains et matériels derrière eux. Mais les grandes œuvres silencieuses de paix, ils passent inaperçus.
Pourquoi toi, qui es d'origine marocaine, as pris la décision d'écrire un livre sur la partition d'un État centre-européen?
Moi, je ne suis pas, s'agissant d'un travail à faire, je ne suis pas d'origine marocaine, je suis d'origine universitaire. Et en tant qu'universitaire, qui a fait de la recherche déjà et qui a enseigné dans une faculté, j'ai compris, mais alors dès 1990, j'en tremblais que je suis en train de passer à côté d'un événement colossal. C'est comme si un amateur de femmes passe à côté d'une belle femme. C'est quelque chose de ce genre-là. Et que par conséquent, je ne pouvais pas le rater. Je considérais ma présence à la radio parce que c'est là où ça se passait, c'est le carrefour des idées, des contradictions, des conflits. Je considérais ça comme une chance, comme une bénédiction divine et j'ai plongé dedans le temps qu'il fallait sans jamais m'ennuyer ni me fatiguer.
Est-ce qu'il y avait des aspects de la partition qui t'intéressaient spécialement?
Il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup intrigué et je dirais beaucoup surpris parce que c'est une curiosité scientifique, technique, qui ne peut pas laisser indifférent. Je me demandais toujours, mon Dieu, mais comment ils vont faire pour diviser ce pays en deux? C'est une question qui me hantait et je suivais ça pas à pas parce que d'abord déterminer, retracer les frontières. Bien que le problème des frontières ait été réglé en 1919, il restait toujours des adaptations à faire compte tenu de l'évolution qui s'est faite. Après, il y a des écoles qui ont été construites, des ruisseaux qui ont été détournés, tout ça, ça posait de grands problèmes. Puis on passe au patrimoine. Mon Dieu, le patrimoine, il a fallu donc saucissonner tout ça pour partager chaque chose, obtenir un consensus autour de ce partage. Et puis, il y a les biens de la Tchécoslovaquie à l'étranger.
Ton livre commence par ce que tu appelles la genèse de la partition. Quels ont été les facteurs principaux de cette genèse?
La genèse de la partition, justement, ils sont de deux sortes. Il y a d'abord le contexte historique qui est là. Et puis, ce contexte historique a joué beaucoup, parce qu'il fait partie, il y a une certaine mémoire. Puis, il y a dans l'histoire immédiate, il y a les conditions dans lesquelles la Tchécoslovaquie a été formée, où il y avait les Slovaques qui avaient tout à recevoir et les Tchèques qui avaient tout à donner. Et ça, ça a créé une espèce de complexe chez les Slovaques qui fait que, à la fin, ce Tchèque est devenu quelque peu agaçant. Il était instituteur, il était professeur, il était ingénieur, il était infirmier, et eux, ils étaient paysans. Et donc, de ce côté-là, il y a une certaine susceptibilité qui est restée en arrière-plan, qui a, non pas, je dirais, pour le gros de la population slovaque, décidé à opter pour la partition, mais disons que ça a facilité la tâche aux meneurs. Et puis, dans la jeunesse, ben, il y avait le débat. Le débat qui a été déclenché depuis 1990 jusqu'en 1992, et ce débat qui n'a fait que s'envenimer. Et quand on lit, par exemple, parce que j'ai reproduit les grands axes de ce débat, on perçoit parfaitement de quelle manière la situation s'envenimait, petit à petit, en glissait, on allait vers la partition, comme ça, en glissait. Il y a comme une descente, je sentais ça comme une descente aux enfers. Pour moi, aux enfers, parce que c'était un État qui allait s'écrouler.
Est-ce que c'était, d'après toi, un processus réversible? Est-ce qu'on pouvait éviter, par exemple, certains actes politiques, certaines erreurs politiques? Est-ce qu'on pouvait, par justement une politique plus sage, éviter finalement la partition?
On aurait pu toujours le faire. Mais moi, personnellement, j'avais du mal à croire, malgré tout ce qui se passe, que cette partition va absolument avoir lieu. Le jeu était intéressant sur le plan théorique, mais j'avais du mal à y croire. Mais je me suis incliné devant une pluralité de Tchèques que j'ai consulté à l'intérieur de la radio comme à l'extérieur de la radio et qui m'avait dit, alors qu'ils ne se connaissaient pas les uns les autres, les jeux sont pipés.
Roselyne Chenu, qui a été dans les années 60 et 70 assistante du poète Pierre-Emmanuel de la Fondation pour une entraide intellectuelle, a visité la Tchécoslovaquie à plusieurs reprises entre 1969 et 1980. Elle a rencontré de nombreux intellectuels tchèques et slovaques. Et déjà en ce temps-là, elle s'est rendue compte que les rapports entre tchèques et slovaques n'étaient pas sans problème. J'aimerais que tu écoutes son témoignage.
Alors, au niveau où j'ai pu voir les choses, je n'ai pas fait d'analyse socio-économico-politique en profondeur, mais en interrogeant les uns et les autres, je me suis rendu compte, et ça m'a beaucoup étonnée, qu'il y avait, et dans le domaine culturel, puisque c'était mon domaine, mais une ignorance absolue à Prague de ce qui se passait à Bratislava, et l'inverse. Chacun, si je puis dire, vivant, replié sur sa province, son pays. Et rares ont été, des deux côtés d'ailleurs, les intellectuels qui m'ont dit « Ah, vous venez de Prague » ou « Ah, vous arrivez de Bratislava, qu'est-ce qui se passe là-bas » etc. Quelques-uns m'ont posé des questions, tant à Bratislava sur Prague qu'à Prague sur Bratislava. Je veux dire que j'étais très étonnée que ce soit moi, l'étrangère de passage, qui a pu donner aux uns et aux autres des informations sur comment ils réagissaient à l'occupation, comment ce qu'ils pouvaient publier, les tirages des livres, etc. Donc toute une série d'informations courantes quand on s'intéresse à la vie culturelle. Et c'est moi qui le leur donnais. Et c'était une grande découverte d'une part, et plutôt un étonnement de ma part.
Est-ce que vous avez décelé déjà, en ce temps-là, des antagonismes, des différences entre Tchèques et Slovaques qui éventuellement pourraient aboutir beaucoup plus tard à la séparation des deux peuples et à la partition de la Tchécoslovaquie.
Peut-être en 70, si ma mémoire est bonne, ou peut-être était-ce déjà en 69, je ne sais plus, il y avait eu pour la Slovaquie une sorte de fédéralisation, je crois. Ils avaient acquis une certaine indépendance par rapport à la Bohême-Moravie, et j'ai senti combien toutes les personnes que j'ai vues là-bas, en Bratislava, étaient contentes et préoccupées de concrétiser ces décisions qui avaient été prises donc par sur papier, si je puis dire, par les hommes politiques. Ce que j'ai senti aussi, c'était au fond un peu comme un complexe d'infériorité en Slovaquie par rapport à la Bohême, sentiment d'infériorité et donc de, je ne peux pas dire d'humiliation, mais il souffrait de ne pas être reconnu pour ce qu'il se sentait être. Bon. Et à l'inverse, à Prague, je veux dire que dans l'ensemble, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, ce qui m'a frappé, c'est l'indifférence totale de mes interlocuteurs à l'égard de la Slovaquie. Je dirais d'une certaine manière, c'est comme si pour eux la Slovaquie n'existait pas. Je ne parle pas de tout le monde, mais beaucoup de mes interlocuteurs. Et donc, au fond, c'était peut-être ou probablement des signes prémonitoires de ce besoin de séparation, probablement surtout de la part des Slovaques.
Nous revenons donc à notre entretien avec Omar Mounir. Est-ce que cette indifférence entre Tchèques et Slovaques que Roselyne Cheny a remarqué a été un signe vraiment prémonitoire de la partition ou c'était un phénomène normal et sans conséquence? Est-ce que toi, qui es venu de loin et qui pouvais donc jeter dans les premières années de ton séjour en Tchécoslovaquie sur la réalité tchécoslovaque un regard objectif, est-ce que tu as remarqué cette indifférence ou d'autres symptômes inquiétants dans les rapports tchécoslovaques?
Je dois dire que moi, personnellement, je n'ai rien remarqué de particulier. Une chose est certaine, les Slovaques sont très chatouilleux sur la question nationale. Mais cela ne veut pas dire que le phénomène exprime une austérité quelconque aux Tchèques. Autre chose, ou plutôt en revanche, quelqu'un m'a dit, l'une de mes connaissances m'a dit que dans les années 60 déjà, il discutait à Brno, à Pšerada, le fameux lac de Brno, il discutait pendant l'été avec un Slovaque de rencontre, qu'il a rencontré par hasard, et ce Slovaque lui a dit, à ce Tchèque, lui a dit, tôt ou tard nous allons nous séparer. Mais c'était un individu.
Quels ont été, d'après toi, les principaux problèmes auxquels la partition s'est heurtée? Quelles ont été ces étapes les plus difficiles et aussi les plus dangereuses?
Les étapes les plus difficiles et les plus dangereuses dans le processus de la partition de la Tchécoslovaquie sont nombreuses. À chaque détour dans cette évolution, il y avait une étape difficile et dangereuse. Et il y a d'abord le fait de décider la partition, de passer à la décision de la partition sans au préalable parler de référendum ou même la décision en elle-même. Et puis, ma foi, il y a l'exécution de la partition. Il y a, par exemple, la séparation monétaire. Il y a la question des frontières qui chamboulaient complètement la vie des gens. Il y a le partage du patrimoine sur lequel les Slovaques n'ont jamais été tout à fait d'accord. Et donc, on flirtait en permanence avec le danger et en permanence avec des risques de dérapage. C'était cela, finalement, la partition de la Tchécoslovaquie, que les responsables, et je dois leur tirer chapeau, avaient fait face avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination et beaucoup, beaucoup d'intelligence et de sang-froid.
En général, les États se décomposent dans les conflits et dans le sang. Pourquoi, d'après toi, Tchèques et Slovaques ont réussi à se séparer dans la paix?
Il y a dans chaque pays, il y a des dominantes locales. C'est-à-dire il y a tout un tas de caractères, puis il y a une résultante qui fait que c'est le caractère dominant. Les Tchèques sont des gens paisibles. Ça, personne n'y peut rien. C'est comme ça. que ça plaise ou que ça déplaise. Et puis, ma foi, les Slovaques ont été entraînés. Ils ont été entraînés dans cette atmosphère. Ils ont joué le jeu, d'autant que, il ne faut pas quand même l'oublier, c'est que il y a un mélange qui s'est fait quand même avec ces pays pendant les 70 ans qu'a duré, et même avant, la vie de la Tchécoslovaquie. Et il y a des statistiques, mais alors très très surprenantes, sur le nombre de Tchèques passés en Slovaquie pendant ce temps-là et le nombre de Slovaques passés en République tchèque pendant ce temps-là. C'est comme ça, ces gens-là ne règlent pas leurs problèmes à coups de couteau. Voilà.
À la fin de ton livre, tu écris « Les Tchèques ont obtenu ce qu'ils voulaient parce que la fédération est dissoute, faute de pouvoir survivre. Les Slovaques n'ont pas été déçus non plus parce que la fédération dissoute a continué à fonctionner à travers l'union douanière et une série d'accords sociaux comme une sorte de confédération, ce qu'ils avaient précisément désiré. » Est-ce que tu penses que cette confédération, qui ne dit pas son nom, cette coexistence de deux peuples, se poursuit encore aujourd'hui d'une certaine manière, où les deux États continuent à s'éloigner l'un de l'autre?
Et je crois que les deux tendances, les deux courants sont valables. Il y a un effet d'éloignement, puis il y a, par le fait qu'il n'y a plus de programme scolaire commun, qu'il n'y a plus de programme à la télévision, qu'il n'y a plus de rencontres très liées entre diverses institutions et autres. Mais en même temps, il y a une unification par l'esprit, par l'intérêt, et qui se trouve double actuellement. D'abord, en raison de l'ensemble de l'arsenal législatif toujours en vigueur, mais ça c'est une affaire assez compliquée, que les Tchèques et les Slovaques ont posé pour continuer en quelque sorte, créer une espèce de filet de rétention pour amortir tout choc éventuel. Et à cela s'ajoute aujourd'hui l'Union européenne, et qui fait qu'il y a un double cadre quand même, un double filet si j'ose dire.
Au moment de la partition, on a prédit beaucoup de problèmes à la Slovaquie. Elle s'en est sortie plutôt bien. Pourquoi, d'après toi, ces visions pessimistes ne se sont pas réalisées?
Ça, c'est très discutable. La Slovaquie, en tant qu'État, s'en est bien sortie. C'est une certitude. Que le Slovaque moyen s'en soit bien sorti, je ne dirais pas autant. Je ne dirais pas autant parce que ce qui a été prévu, c'est toutes les, disons, les tuiles que tout le monde prévoyait, les spécialistes et les économistes et autres, tchèques et slovaques, se sont en partie réalisées. Il y a eu la dévaluation de la couronne slovaque, et puis la perte de pouvoir d'achat, le bradage de la main-d'œuvre pour attirer les investissements dans des proportions qui défient certains États africains. Ça, on ne doit pas l'oublier. Si bien que le Slovaque moyen, qui est ouvrier ou autre, ou technicien, a laissé les plumes dans cette affaire de partition. Il n'y a qu'à voir, aujourd'hui à Prague, l'exode, parce qu'il faut parler d'exode, de la main-d'œuvre slovaque qu'on trouve un peu partout, dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les infirmeries, dans les dispensaires, les hôpitaux, et probablement les écoles aussi pour les spécialistes. Non, les Slovaques ont payé cher cette partition, et ce qui était attendu, et s'est réalisé fort heureusement, pas souvent dans les proportions dramatiques et alarmistes qu'on prévoyait.
Tout récemment, le journal slovaque SME a organisé une enquête, un sondage, et le résultat de ce sondage est que 42% des Slovaques préféreraient vivre dans la Fédération tchécoslovaque. Qu'est-ce que tu penses de cette information aujourd'hui, 15 ans après la partition?
Je crois que ça reflète le sentiment de l'époque, c'est-à-dire du moment de la partition de la Tchécoslovaquie. Ces 42%, c'est ce qui reste de ce qu'on appelait à l'époque la majorité silencieuse et qui n'était pas pour la partition. Il y avait des meneurs politiques qui avaient agité toute cette affaire en Slovaquie parce qu'ils pensaient qu'ils allaient en tirer le gros lot. Et puis d'ailleurs, finalement, leurs projets ne se sont pas réalisés parce qu'ils se sont heurtés à un obstacle qu'ils ne savaient pas. À l'époque, ils venaient de sortir de la nuit communiste et cet obstacle s'appelle la démocratie. Et il ne reste plus rien, ni de ces gens-là, ni de leurs rêves.
Il y a quelques années, même l'ancien président Václav Havel, d'abord grand adversaire de la partition, a changé d'avis. Il a changé d'avis sur la partition parce que il croit maintenant que la partition était peut-être utile, sinon nécessaire.
Je crois que il y avait beaucoup de résignation dans ne l'oublions pas, dans la décision de Václav Havel, que j'ai appelé à l'époque c'est le mécanicien de la fédération. Il a avec toujours, je le représentais toujours avec sa boîte à outils, en train de courir dans tous les coins pour réparer les mécanismes. Mais à un moment donné, c'est la phrase qu'il avait dite, à quelque chose près, déjà en 1972, quand il a, à l'issue d'un dîner avec Václav Klaus, sur au restaurant de la place de la Malastrana, en ville. C'est ça, c'était son sentiment. Et ce que je pourrais dire après 15 années de partition, c'est-à-dire de séparation des deux pays, et des deux États, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas fait tellement mal. Bon, il y a cette mauvaise passe espérant en Slovaquie, qui ça n'a pas fait, et ça aurait pu faire, si la Tchécoslovaquie était restée, ça aurait été douloureux. Finalement, c'est bien, je dirais. Bon, tant mieux, si c'est comme ça, ben tant mieux. Mais que l'on ne dise pas, comme M. Jacques Attali, dans une émission de télévision à Paris, que les Tchèques s'étaient débarrassés, les Tchèques riches s'étaient débarrassés des Slovaques pauvres. C'est faux, c'est complètement, je m'excuse de le dire, mais c'est complètement hors de propos.
Comment vois-tu aujourd'hui, 15 ans après la séparation, les rapports entre Tchèques et Slovaques?
Ils sont très bons. Ils sont très bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont empreints d'une cordialité particulière. Quand les Tchèques travaillent avec les Slovaques, il y a l'ange, je dirais l'ange de la Tchécoslovaquie qui est toujours présent. Et cet ange de la Tchécoslovaquie fait que les rapports entre Tchèques et Slovaques, au niveau de toutes les tribunes nationales, européennes et internationales, sont excellentes.
C'était donc Omar Mounir, auteur du livre « La partition de la Tchécoslovaquie ». Nous avons évoqué la séparation entre Tchèques et Slovaques il y a juste 15 ans. La première émission en langue française de Radio Prague de l'année 2008 prend fin. Merci d'être fidèle à notre station dès le début. Que l'année 2008 soit pour vous l'année de paix, de santé, de bonheur et de bonne humeur.